Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite un très bon sabbat. Quand nous nous levons chaque matin, c'est une nouvelle journée et nous avons toute la journée devant nous. Nous avons le temps, nous avons une certaine quantité d'énergie qui est bien sûr variable, nous avons des opportunités pour faire un certain nombre de choses, des opportunités pour servir, pour apprendre, pour partager, pour penser et pour croître. En tant que chrétiens, nous avons des opportunités dans un but bien précis, dans le but d'honorer notre Dieu. L'accent dans notre vie devrait être sur le fait d'honorer Dieu. Nous voyons dans Malachie une condamnation de la part de Dieu. Il a clairement condamné le peuple et les sacrificateurs pour leur péché et les a exhortés à pratiquer la justice. Regardons Malachie chapitre 1 et le verset 6. Malachie chapitre 1 et le verset 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Il faisait preuve de mauvaise foi en plus. Il ne voyait pas où il ne voulait pas voir, qui méprisait le nom de Dieu. Regardons les antonymes, c'est-à-dire les opposés pour le mot en question. Pour le mot honorer, l'antonyme est mépriser. L'inverse est également le cas. L'antonyme de mépriser, le dictionnaire donne le mot honorer. Il est vrai que le mot honorer est quelque peu passé de mode. Avant, l'honneur était très présent dans la société. On parlait de mettre un point d'honneur, c'est-à-dire une chose ou aspect que l'on considère comme touchant à l'honneur et sur lequel il est impossible de faire de concessions ou de transiger. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'honneur dans le contexte de la société, mais le fait d'honorer Dieu. Et c'est le titre même de ce sermon. Honorer Dieu. Honorer Dieu. Parce qu'honorer Dieu devrait être au centre de notre existence. Quelle que soit notre situation, que nous soyons seuls ou mariés, jeunes ou âgés, riches ou pauvres, Dieu veut que nous l'honorions. Dieu s'attend à ce que nous l'honorions. C'est un privilège de connaître Dieu, de savoir ce qu'il attend de nous. Dieu nous dit comment l'honorer et nous verrons ceci un peu plus tard dans le sermon. Mais la chose la plus importante pour nous, notre approche, notre point de vue, la perspective la plus importante avec chaque nouvelle journée, avec le commencement de la journée, de notre journée, ce qui devrait être notre focus central quand nous nous levons, c'est d'avoir cette approche comme une lumière qui nous guide, un principe qui dirige notre vie et qui la rende riche, stimulante et intéressante. De vouloir honorer Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Dieu nous demande de l'honorer et il va nous aider à le faire, à l'honorer, si nous lui faisons confiance. Mais pour y arriver, nous devons faire passer Dieu en premier dans notre vie. L'honorer dans notre vie à travers notre comportement. 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 31. 1 Corinthiens chapitre 10 et le verset 31. C'est une écriture qui traite de cette approche que j'ai mentionnée, la lumière qui éclaire notre vie pour nous guider dans notre comportement de tous les jours dès le matin. Je cite, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Le lexique loueur que j'utilise relativement souvent traduit ce même mot, ici traduit par gloire, dans un autre verset par le mot honorer. Il est important d'avoir nos yeux sur Dieu pour que nous puissions réussir notre vie, traverser la vie le mieux possible, pour nous accomplir dans la vie, quels que soient nos handicaps, nos difficultés ou nos problèmes. Dieu est le Tout-Puissant. Il peut tout faire, et si nous lui faisons confiance, il va nous apporter l'aide dont nous avons besoin pour réussir et pour avancer dans la vie. Il veut nous aider, mais il faut que nous nous mettions en harmonie avec sa voix, ses lois, et que nous allions dans la bonne direction, et ensuite il va nous aider. Dieu peut être le soutien de notre vie. Dieu est notre réconfort pourvu que nous le recherchions avec tout notre cœur et que nous l'honorions dans tous les aspects de notre vie. Le troisième commandement nous dit de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Si nous honorons Dieu, si nous le respectons, si Dieu est important pour nous, nous allons faire très attention à propos de comment nous parlons de Dieu, à ce que nous attribuons à Dieu. Ne pas prendre son nom à la légère. De chercher à honorer Dieu dans notre langage et dans nos conversations, en parlant de Dieu avec respect et en lui obéissant. Avant d'aller plus loin, regardons ensemble la définition d'honorer. Le petit Robert dit ceci, « Tenir en haute estime ». Et pour mieux illustrer le sens du mot, il donne entre autres les mots « estimer » et « respecter ». Une autre définition dit ceci, « Rendre honneur à, traiter avec beaucoup de respect et d'égard ». Quand nous honorons un être humain, nous le traitons avec respect. Dans certaines circonstances, cela comprend l'obéissance, comme lorsque les enfants qui obéissent à leurs parents. Ils les honorent ainsi. Nous voyons l'importance d'honorer Dieu dans Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 4, nous voyons les raisons pour lesquelles les quatre êtres vivants honorent Dieu. Ils savent pourquoi il faut honorer Dieu. Apocalypse, chapitre 4, et le verset 8. Apocalypse, chapitre 4, et le verset 8. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Pourquoi? Car tu as créé toutes choses. » Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été effrayé. C'est la même perspective pour nous et la même façon d'agir. Tout ce qui nous entoure, les merveilles de la création de Dieu, la perfection de la création de Dieu, l'infiniment grand comme l'infiniment petit, avec les détails, ce qui est si merveilleux et qui nous permet de subsister et de vivre. Mais pourquoi Dieu souligne-t-il le fait de l'honorer? Pourquoi veut-il que nous l'honorions? Pour mieux comprendre, remontons à la rébellion de Lucifer. Lucifer, à un moment donné, s'est rebellé contre son Créateur. Il n'était plus loyal à Dieu. Il a changé. Il voulait le pouvoir et il est devenu un adversaire de Dieu. Il est devenu Satan. Ceux qui honorent Dieu lui sont loyaux et ils lui obéissent. Ce n'est pas le cas pour Satan. Pour être dans le royaume, pour devenir des êtres spirituels, cela passe par le fait d'être loyal à notre Créateur et de lui obéir, ce que les saints anges font tout le temps. Ils sont restés loyaux à Dieu et ils lui obéissent parfaitement. C'est un modèle pour nous. Dieu veut que nous adoptions la même mentalité et ce faisant, il va pouvoir nous bénir, nous honorer aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu veut nous bénir. Il veut nous honorer et il le fait quand nous l'honorons. Et pas le contraire. Dieu ne va pas nous honorer avant que nous l'honorions. Puisqu'il s'agit de la voix de Dieu, pourquoi est-il si difficile pour les êtres humains de l'honorer? Pourquoi y a-t-il si peu qui l'honorent? La réponse se trouve dans la nature humaine. Proverbe chapitre 12 et le verset 9. Proverbe chapitre 12 et le verset 9. Les traductions diffèrent sur la première partie de ce verset, mais lisons la deuxième partie. Que de faire le glorieux et de manquer de pain. La Bible de Jérusalem parle d'un homme qui se glorifie. Et le second, 21, de faire l'important. Si on traduit la version King James en français, il est question de celui qui s'honore lui-même. C'est le même mot en hébreu que dans 1 Samuel chapitre 2 et le verset 30, où il est question d'honorer Dieu, ainsi que dans Exode chapitre 20 et Deutéronome chapitre 5, à propos d'honorer ses parents. On cherche si souvent à s'honorer soi-même, ce qui nous empêche d'honorer Dieu. Pour revenir au petit Robert, que j'ai cité tout à l'heure, sous la rubrique « honorer », il y a aussi la définition de « s'honorer ». « S'honorer » de « tirer honneur, orgueil, fierté ». À ce moment-là, ce n'est pas Dieu qui est au centre, mais c'est le soi. Quelqu'un qui exalte le soi dans sa vie. Regardons l'exemple de quelqu'un qui s'est honoré lui-même dans Daniel chapitre 4 et le verset 29. Nous voyons dans le chapitre 4 que Nebuchadnezzar, en français, il est connu sous le nom de Nabucodonosor, a eu un songe et Daniel, grâce à Dieu, lui a donné son explication avec son humiliation future. C'était une prophétie et qui a été annoncée dans ce songe. Malgré cet avertissement, nous voyons ce qui se passe ou ce qui s'est passé à partir du verset 29, verset 29, Daniel chapitre 4, verset 29. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Il n'a pas élevé Dieu, il s'est élevé lui-même. Nous savons que Babylone était magnifique, était splendeur, était belle, était grandiose. Mais le problème était qu'en regardant tout ceci, Nabucodonosor s'en aurait lui-même. Il était rempli d'orgueil, et de ce fait, Dieu l'a humilié. Il a eu sa demeure avec les bêtes pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il apprenne ce qui est écrit dans le verset 34. Le verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont la règne subsiste de génération en génération. Le Darby dit ceci. Mais à la fin de ces jours-là, moi, Nebuchadnezzar, je levai mes yeux vers les cieux, mon sens me revint, je bénis le souverain, je louai et j'honorai celui qui vit éternellement. J'honorai celui qui vit éternellement, duquel la puissance est une puissance éternelle, et la règne de génération en génération. Il est passé de s'honorer lui-même à honorer Dieu. Un changement radical. Et de ce fait, Dieu l'a honoré. Verset 35. Je reviens maintenant au second. Verset 35. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît. Un changement spectaculaire de la part de Nabucodonosor, comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu ?» En ce temps, la raison me revint, verset 36, « En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grandes me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fait que s'accroître. Maintenant moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec l'orgueil. C'est ce qui s'est passé dans sa vie. Dieu est maintenant à sa place dans son esprit. C'est la réalité. Et par voie des conséquences, Dieu l'a honoré vraiment beaucoup. Une fois qu'il avait changé sa façon de penser et sa façon de vivre. Puisque nous voyons l'importance d'honorer notre Dieu, la question se pose, comment l'honorer? Il y a beaucoup de domaines où nous pouvons le faire. Des domaines où tout le monde est concerné, quelle que soit notre situation. Pour ce faire, nous avons besoin de chercher les occasions d'honorer Dieu dans nos vies quotidiennes. Dieu peut voir quand nous l'honorons, et Dieu peut voir aussi quand nous ne l'honorons pas. Et avec l'aide de Dieu, nous pouvons aussi regarder notre vie et voir quand nous l'honorons et quand nous ne l'honorons pas. Et nous pouvons corriger, changer notre conduite. Nous allons regarder, si vous le voulez bien, plusieurs exemples qui nous montrent comment nous pouvons honorer Dieu. Des exemples qui nous sont donnés dans la Bible Et un premier exemple se trouve dans Proverbes chapitre 3 et le verset 9. C'est une écriture avec laquelle nous sommes familiers. Il s'agit d'un domaine particulier. C'est une façon parmi d'autres qui nous permet de l'honorer. Proverbes chapitre 3 et le verset 9. Proverbes chapitre 3, verset 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Le mot honore utilisé ici a, d'après le Strong's en anglais, a, entre autres, le sens de make weighty, c'est-à-dire le sens que cela a du poids, que Dieu est important pour nous. Notre relation avec lui est très importante, primordiale, et nous le montrons en lui donnant. C'est une façon de l'honorer dans un domaine particulier, un domaine précis. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Nous ne sommes que des gérants de ce que Dieu nous a donné. Nous n'emportons pas toute notre richesse avec nous quand nous arrivons à la fin de notre vie. Nous honorons Dieu aussi avec nos prémices. Nous donnons à Dieu avant de les utiliser pour nous-mêmes. Reconnaître que Dieu doit être servi en premier, sans retenir quoi que ce soit. Il est bien indiqué tout ton revenu. Quand nous mettons Dieu d'abord avec nos biens, avec nos prémices, nous l'honorons. Il passe avant nous. Et Dieu, qui voit tout, va le voir. Nous le faisons non pas pour faire valoir notre fidélité, mais Dieu voit notre fidélité, ce qui nous amène au verset 10. Nous connaissons bien le verset 9, mais peut-être moins le verset 10, que nous ne lisons pas forcément. Mais les deux versets forment un ensemble, parce que Dieu voit ceux qui sont fidèles dans ce domaine, qui l'honorent dans ce domaine. Verset 10. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Dieu est le maître suprême de l'univers. Quand nous donnons à Dieu, il y a une conséquence, une bénédiction. C'est une relation de cause à effet. France Culture dit ceci en réponse à la question « Quelle est la nature de la relation entre une cause et son effet ?» La causalité met en relation deux objets dont le premier est la cause, proprement dite, et le second l'effet de cette cause. Il s'agit ici de deux objets, mais le même principe s'applique aussi pour un comportement, une manière d'agir. La personne qui honore Dieu de cette façon est bénie. Ceci rejoint ce que nous lisons dans Malachie, où Dieu dit qu'en le mettant à l'épreuve, qu'il ouvrira les écluses des cieux et qu'il répandra la bénédiction en abondance. Dieu dit dans 1 Samuel chapitre 2 et le verset 29, 1 Samuel chapitre 2 et le verset 29, je cite, « Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Le contexte ici était de la part de Dieu une condamnation de la maison d'Élie. Nous retrouvons le même principe que nous avons déjà vu dans Malachie chapitre 1. Le contraste, la différence entre le fait d'honorer et le fait de mépriser. Regardons Proverbes chapitre 4 et le verset 5. Proverbes chapitre 4 et le verset 5. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence, n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera, aime-la et elle te protégera. Il s'agit ici de la sagesse de Dieu, la vraie sagesse qui nous fait du bien et qui nous permet de récolter les fruits dans notre vie. Verset 7. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Je vais lire le verset 8 dans la version Darby. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle t'honorera quand tu l'auras embrassée. Dieu bénit celui qui l'honore, et ceci de plusieurs façons. C'est un premier domaine où nous pouvons honorer Dieu, mais nous pouvons chercher d'autres domaines, d'autres façons d'honorer Dieu. La prière est un domaine très important dans la vie d'un chrétien. Notre contact journalier avec Dieu, où nous communiquons avec Dieu, et ceci nous amène à un point spécifique dans la prière et qui constitue une deuxième façon d'honorer Dieu. Reportons-nous à Psaume chapitre 50 et le verset 23. Psaume chapitre 50 et le verset 23. Je vais lire ce verset dans la version Ostevat, qui fait davantage ressortir le sens par rapport au verset que nous avons déjà vu. Psaume 50 et le verset 23, version Ostevat. Celui qui offre pour sacrifice la louange m'honore. Celui qui offre pour sacrifice la louange m'honore, et à celui qui règle sa voix, je ferai voir le salut de Dieu. La version seconde parle de celui, à la fin du verset, celui qui veille sur sa voix. De nouveau, nous trouvons le mot honoré. Cette fois-ci, dans le contexte de la prière, et plus spécifiquement dans le domaine de louange. Quand nous louons Dieu, nous l'honorons. Les deux aspects de ce verset vont de pair. La louange à Dieu est le fait de régler nos voix en fonction de la voix de Dieu. Autrement dit, notre comportement, qui est aussi une autre façon d'honorer Dieu. Nos louanges à Dieu, logiquement, constituent ou devraient constituer une bonne partie de nos prières. Nous avons le privilège de louer Dieu, de le louer pour sa grandeur, pour sa suprématie, pour sa souveraineté, pour sa miséricorde, pour sa bonté. Nous louons Dieu parce qu'il est le grand Dieu suprême, plein de bonté, qu'il a dédaigné à baisser ses regards sur nous, nous qu'il a choisis, qu'il a sélectionnés hors du monde, malgré toutes nos fautes, alors que nous sommes les faibles du monde. Et Dieu continue à être très patient avec nous, malgré le fait que nous avons toujours de nombreuses fautes. Il ne nous laisse pas tomber. Nous avons toutes les raisons du monde de louer Dieu tous les jours. Comme il est écrit dans le psaume 107, qui loue, et je cite, « qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. » Cette phrase est répétée à plusieurs reprises suite à plusieurs situations qui sont énumérées dans le psaume et où Dieu les a délivrés de leurs problèmes, de leurs difficultés. Le dénominateur commun avec la délivrance de Dieu et sa bonté, et c'est la raison pour laquelle nous pouvons le louer nous aussi. Il nous a délivrés si souvent. Nous connaissons le plan de Dieu pour l'humanité. Nous connaissons le plan de Dieu pour nous sur un plan individuel. Cela devrait nous inciter à louer Dieu pour son immense bonté et pour le fait qu'il nous a protégés à maintes reprises. C'est un immense privilège de connaître Dieu et de pouvoir le louer et par la même occasion de l'honorer parce que Dieu est très important à nos yeux. Nous allons regarder l'exemple d'un jeune adolescent ou jeune homme et qui a été emmené captif, sa vie brisée, pour ainsi dire, bouleversée, mise sans dessus dessous. Sur un plan humain, il aurait pu perdre tout espoir. On estime que Daniel avait entre 15 et 20 ans quand l'invasion de Nabucodonosor a eu lieu. Les dates de l'invasion peuvent varier de quelques années, mais le renseignement que j'ai relevé le situe à 605 avant Jésus-Christ. Ceci, bien entendu, était une époque de souffrance et de cruauté répandue. Mais Daniel a gardé l'espoir. Il a surtout gardé confiance en son Dieu, le Dieu de ses pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a gardé en tête l'importance absolue d'honorer son Dieu. C'était son but, ce qui lui a permis de surmonter les obstacles et le découragement potentiel, l'influence négative peut-être de certains de ses compatriotes. La Bible précise que Nabucodonosor a trouvé Daniel et ses trois amis 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Plus tard dans sa vie, la Bible précise qu'il avait en lui, et je cite, « un esprit supérieur ». Il était un homme de Dieu, et Dieu était avec lui. Il l'a béni et il l'a honoré. Il ne voulait pas faire de compromis avec la voix de Dieu, y compris dans le domaine de l'alimentation. Il aurait pu y avoir de graves conséquences, mais il a engagé une conversation avec sagesse auprès du chef des eunuques, et Dieu lui a accordé faveur auprès de son responsable. Cette histoire se trouve dans le premier chapitre de Daniel. Dans le deuxième chapitre de Daniel, nous voyons que Nabucodonosor a eu un songe que personne ne pouvait relater. Daniel demande à ses trois amis, Hanania, Mishaël et Azaria, généralement connus sous les noms de Shadrach, Meshach et Abednego, d'intervenir auprès de Dieu pour qu'il révèle le songe. Et Dieu a exaucé leur prière. La suite, nous la trouvons à partir de Daniel chapitre 2 et le verset 19. Daniel, chapitre 2, et le verset 19. Nous voyons ici à quel point Daniel élevait Dieu, à quel point il louait Dieu. Dieu était tout pour lui. Il savait que tout pouvoir venait de Dieu. Daniel, chapitre 2, verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. » Verset 21, « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Je te loue. Il honorait Dieu parce qu'il le louait. Daniel, chapitre 2, toujours, et le verset 46. Verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Dieu l'a beaucoup honoré, mais le point n'était pas qu'il honorait Dieu. Il a acquis beaucoup d'influence. Des décennies plus tard, après la mort de Nabucodonosor, et après la chute de l'Empire babylonien survenue en l'an 539 avant Jésus-Christ, Daniel est au service du roi Darius, le Mède, qui s'est emparé du royaume de Babylone. Daniel continue à être remarqué pour son, je cite, « son esprit supérieur », pour employer l'expression biblique, de grands honneurs sous Nabucodonosor, de grands honneurs à la fin de l'Empire babylonien avec Belshazzar, et de nouveau de grands honneurs avec Darius. Il était toujours fidèle. Daniel était toujours fidèle. Il cherchait toujours à honorer Dieu dans sa vie et dans son comportement. Daniel chapitre 6 et le verset 1. Nous sommes toujours dans Daniel. Daniel chapitre 6 et le verset 1. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre duquel était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. C'était une constante dans sa vie, des années durant. Nous connaissons la suite de l'histoire. Des hommes méchants voulaient le faire mourir, qu'il soit jeté dans la fosse au lion. Daniel est maintenant bien plus âgé. De l'an 605, à l'époque de Josaquim, nous sommes arrivés à 539 avant Jésus-Christ, et peut-être un peu plus loin. Daniel a maintenant plus de 80 ans, mais il continuait à honorer Dieu de la même façon. Daniel chapitre 6, toujours, et le verset 10, suite au décret du roi. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, et qu'est-ce qu'il faisait? Il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Malgré le décret du roi, il n'a pas hésité. Il a continué à prier et à louer son Dieu, comme c'est écrit. Il honorait toujours son Dieu. Nous connaissons la suite de l'histoire, que Dieu a fermé la gueule des lions, qu'il a protégé Daniel parce qu'il a eu confiance en lui et parce qu'il a honoré Dieu. Dieu l'a honoré aussi. Verset 26. Toujours Daniel chapitre 6 et le verset 26. C'est le roi Darius qui parle, verset 26, « J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, une fois qu'on avait sorti Daniel de la fosse au lion, verset 26, « J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Ils se rendaient compte que c'était Dieu qui l'avait délivré. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Un tel éloge de la part d'un roi païen, Dieu peut élever, Dieu peut abaisser. Cela constitue donc un deuxième domaine, une deuxième façon d'honorer Dieu dans la prière. Une troisième façon d'honorer Dieu a à voir avec le sabbat. Regardons, si vous voulez bien, Ésaïe chapitre 58 et le verset 13. Ésaïe chapitre 58 et le verset 13, où il est question du sabbat. J'utilise la version Darby pour ce verset. Et nous allons constater que le mot honorable et honor, le même mot en hébreu, sont utilisés dans cette traduction. Ésaïe 58 et le verset 13, version Darby. Si tu gardes ton pied de profaner le sabbat, de faire ton plaisir en mon saint jour, si tu appelles le sabbat tes délices et honorable, le saint jour de l'Éternel, si tu l'honores en t'abstenant de suivre tes propres chemins, de chercher ton plaisir et de dire de vaines paroles. Nous honorons Dieu en honorant son saint sabbat. Si nous évitons de faire ce que nous faisons le reste de la semaine, de nous abstenir de poursuivre nos propres chemins, comme il est écrit, de s'abstenir de chercher notre plaisir, que le sabbat soit vraiment un délice, un repos physique et moral pour nous, une vraie coupure par rapport au reste de la semaine, que nous passions plus de temps à prier, à étudier et à méditer, que nous passions plus de temps avec nos enfants ou avec des amis, que le sabbat soit un rafraîchissement spirituel et qui serve à renouveler nos batteries physiques et spirituelles pour bien redémarrer une nouvelle semaine. Si c'est le cas, nous honorons Dieu en observant dans l'esprit le sabbat de Dieu. Il y a une autre façon d'honorer Dieu et qui peut être associé avec l'observance du sabbat, c'est notre tenue vestimentaire. Si nous devions paraître devant un roi ou un membre d'une famille royale, nous ferons attention d'avoir une tenue vestimentaire correcte, appropriée pour l'occasion. Nous ne nous habillerons pas comme tous les jours, nous ne nous habillerons pas d'une façon négligée. Nous ferions attention à notre tenue vestimentaire. Lorsque nous avons nos assemblées, quand nous pouvons nous réunir en personne, lorsque nous venons devant Dieu, nous demandons sa présence, son inspiration sur la réunion. La Bible utilise l'expression de sainte convocation pour désigner le jour du sabbat, ainsi que les fêtes de l'Éternel, et qui sont mentionnées dans Lévitique chapitre 23. Et Dieu ajoute, « Voici quelles sont mes fêtes. » En venant devant Dieu, notre roi, notre Dieu, nous l'honorons aussi avec la façon dont nous nous habillons. Une autre façon par laquelle nous honorons Dieu est dans notre comportement. Nous connaissons l'écriture que nous lisons lors de la cérémonie de la Pâque et qui se trouve dans Jean chapitre 15 et le verset 8. Jean chapitre 15 et le verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est aussi traduit par honoré, glorifié, honoré, et que vous serez mes disciples. Nous voulons être les disciples de Dieu, et lorsque nous changeons, que nous portons des fruits de l'Esprit de Dieu, notre Père est glorifié, notre Père est honoré. Dieu est honoré par ce changement dans notre vie, par le fait que nous portions des fruits de l'Esprit de Dieu. Dieu est honoré par notre comportement. Nous pouvons honorer Dieu à travers nos paroles qui parlent respectueusement de Dieu et de sa voix. Nous pouvons honorer Dieu dans nos pensées. Regardons 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6 et le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été, verset 20, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Puisque nous avons été rachetés, notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. D'honorer Dieu dans nos pensées les plus intimes. Nous honorons Dieu en ayant un comportement convenable, même quand c'est difficile, en pratiquant les normes de Dieu, les 10 commandements. Tite chapitre 2 et le verset 10. Tite chapitre 2 et le verset 10. Je saute au milieu d'un contexte ici, mais c'est pour dégager le principe. Tite chapitre 2 verset 10. À n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Si nous honorons la doctrine de Dieu, son enseignement, par notre comportement, nous honorons Dieu. Et quand nous regardons la vie de Joseph, nous pouvons constater que c'est une histoire extraordinaire. Dès son plus jeune âge, il a connu l'amour de la part de ses parents, mais il a aussi connu la haine, l'animosité de la part de ses frères. Il n'avait que 17 ans quand il a rapporté le mauvais propos de deux de ses frères à son père. L'animosité de la part de ses frères est allée en augmentant au point qu'ils ont parlé de le tuer. Et nous savons ce qui s'est passé par la suite. Mais j'ai voulu souligner quelque chose à propos de la souffrance de Joseph à cette époque. Joseph, qui était tout jeune, est sensible aux événements de la vie. Genèse chapitre 42 et le verset 21. Genèse chapitre 42 et le verset 21. C'est ses frères qui parlent. Quand ils ont vu justement Joseph en Égypte, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Le lexique loueur parle d'angoisse, détresse, malheur. Il aurait pu penser que sa vie allait se terminer là. Mais il a surmonté cette angoisse en s'appuyant sur Dieu. Il avait forgé une relation étroite avec son Dieu, comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Cela lui fut salutaire. La différence était qu'il était seul. Mais Dieu était constamment avec lui. Il cherchait à honorer Dieu dans sa vie, et Dieu l'a honoré à son tour. C'était une constante dans sa vie quand il était jeune, quand il était en charge de l'approvisionnement en Égypte et quand il était âgé. dans chaque période de sa vie et honoré Dieu, et Dieu l'a honoré. Nous pouvons voir dans Genèse 39, le premier verset de Genèse chapitre 39, que Dieu était avec lui quand il était esclave en Égypte, sous Potiphar. Vous vous rappelez, Dieu honore ceux qui l'honorent d'abord. Quelques versets plus loin, nous voyons la tentative de la femme de Potiphar auprès de Joseph. Joseph a résisté à ses avances. Le but de sa vie était de servir Dieu, d'obéir à Dieu, de l'honorer par son comportement. Verset 8. Genèse chapitre 39 et le verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître, ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a mis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne me l'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Il avait la notion, la bonne notion de ce qu'était le péché. Il ne voulait pas pécher, il ne voulait pas transgresser le commandement de Dieu, le septième commandement. Il réglait sa vie en fonction des commandements de Dieu. Nous savons que Joseph a été envoyé en prison par la suite à cause du mensonge de Madame Potiphar, mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Joseph continuait à mener une vie intègre et Dieu était toujours avec lui. Dans le chapitre 40, nous voyons les deux songes séparés. Joseph continuait à honorer Dieu, donner la gloire à Dieu, quand il a interprété les deux songes. Deux ans passent et Joseph reste en prison. À la suite des deux songes de Pharaon, il est convoqué et deux ans plus tard, nous trouvons la même assurance, cette même confiance tranquille en Dieu. Genèse chapitre 41 et le verset 16. Genèse 41, verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Dieu est toujours honoré, élevé. Dieu est toujours mis en avant. C'est Dieu qui est loué. Verset 28. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Verset 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Il savait ce qui allait arriver. À partir de ce moment, dans sa vie, il a connu une autre vie. Dieu a pu l'utiliser, a pu le bénir et a pu bénir sa famille, toute une région. Il a appris à gérer. Il a appris à gérer sa situation à l'époque de Potiphar, quand il était en prison. Il a eu une fin heureuse et le plan de Dieu s'est accompli dans sa vie. Nous connaissons le plan de Dieu. Nous savons que Dieu veut notre bien, que Dieu veut nous honorer en nous donnant la vie éternelle. Et quand nous nous couchons le soir, nous pouvons nous poser la question, ai-je honoré Dieu avec la façon par laquelle j'ai fait les choses? L'ai-je servi? Ai-je élevé Dieu dans mes pensées, dans mes paroles et dans mon comportement? L'ai-je servi, l'ai-je honoré avec la façon par laquelle j'ai fait les choses?